Bonjour, bienvenue dans notre 33e émission, dans notre musée imaginaire. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité. Et tout d'abord, une des auditrices extrêmement fidèles, Monica, qui me signalait l'autre jour une remarque, mais je crois qu'il s'applique à d'autres personnes. Elle me disait, vous savez, quand j'écoute votre émission, ou en différé, je me branche systématiquement sur mon portable ou ma tablette, et je suis les explications et les tableaux. Et cette manière m'a appris maintenant, au bout de tant d'émissions, je perçois la peinture, je la regarde de manière différente, ainsi que la sculpture. Voilà, donc ça je crois que c'est une remarque pertinente, je pense que vous la partagez certainement avec Monica, mais je voudrais vous le signaler. Alors aujourd'hui nous restons en Italie. J'imagine qu'avec ces vacances, beaucoup d'entre vous, et je le souhaite, ont eu la chance de partir au Rond de la Chambre à Venise ou à Florence. Et nous allons aujourd'hui parler de la sculpture maniériste en Italie. Alors cette sculpture maniériste, elle va se caractériser par un étirement caractéristique des formes. Je pense que maintenant, le maniérisme n'a aucun secret pour vous. Et le premier sculpteur dont nous allons évoquer, c'est Bandinelli, Baccio, né à Florence, c'est né en 1493, décédé en 1560. C'est un rival assumé de Michel-Ange. Il se confronte de plus en plus à Michel-Ange. Il se forme dans l'atelier de son père, qui est orfèvre, bon sculpteur de la tradition florentine. C'est un homme de transmission, c'est une notion que nous avons déjà étudiée, cette transmission. Rustici le forme dans son atelier, jalousie avec Michel-Ange parce que Michel-Ange, bien sûr, est la référence suprême. Et Michel-Ange quitte Florence et Bandinelli devient le premier sculpteur de Florence. Une œuvre, 1519, Orphée, un marbre pour le palais des Médicis, et cette sculpture est proche de l'Apollon du Belvédère, une statue qui a été retrouvée à Rome et qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Autre œuvre de Bandinelli, Hercule et Cacus, c'est un marbre de 5 mètres de haut, un groupe monumental, colossal, qui est actuellement à Florence, à la Piazza della Signora. Grande rivalité, je vous l'ai dit, entre Bandinelli et Michel-Ange. L'iconographie de cette œuvre, c'est Hercule, fondateur mythique de Florence et de Rome, Cacus, fils de Vulcain, et Hercule va tuer Cacus avec des coups de massue. C'est une statue qui est rigide, grande, 5 mètres de haut, je vous dis, donc celle du David de Michel-Ange est de 4 mètres de haut. Toujours cette référence au maître. Bandinelli, il fait aussi une copie du Laocoon, qui a été découverte à Rome dans des fouilles à l'époque. Et cette œuvre, la copie de Laocoon, est au musée des Offices de Florence. C'est une commande du pape Léon X de Médicis, copie en marbre. À noter que les bras droits de Laocoon et de son fils sont restitués. Mais dans cette statue, Bandinelli creuse trop les traits du visage, un aspect plus torturé. Autre œuvre de Bandinelli, une Pietà. Et oui, il a fait une Pietà, lui aussi, commande de Médicis. C'est un Christ soutenu par Nicomède, ou peut-être Joseph d'Arimathie. Composition triangulaire sur un socle rectangulaire, très raide, non pyramidale. Le Christ est un peu disproportionné, trop large du buste, avec des jambes un peu courtes. Et puis Bandinelli fera une œuvre aussi, le Christ mort avec un ange, qui est un marbre 1552, qui est à l'église de Santa Croce à Florence. Et puis un autre sculpteur, alors là très remarquable, Benvenuto Cellini, 1500-1571, né à Florence, mort à Florence, formé à l'orfèvrerie à 13 ans, c'est un orfèvre florentin talentueux, sculpteur tardivement, d'où beaucoup d'œuvres en bronze. Il reprend des thèmes de Michel-Ange avec ses fameuses torsions, il se mesure au mètre, mais il se démarque de Michel-Ange. C'est une attitude qu'on va retrouver dans beaucoup d'artistes. On se référence au maître, mais on essaye de s'en démarquer. Rôle important dans la Renaissance française. Premier atelier à Rome en 1531. Il restera à Rome jusqu'en 1531-1540. Et en 1540, il se trouve à Fontainebleau, en France, appelé par le roi François Ier. Il reviendra à Florence en 1545. Une œuvre, le Ganymède, un bronze d'une hauteur de 60 cm, qui est au musée du Bargello à Florence. c'est le prince troyen enlevé par Zeus, par un aigle. Il s'inspire de la victoire de Michel-Ange, qui est au Palazzo Vecchio. Même torsion de corps, les cheveux bouclés. Enfin, une des plus grands chefs-d'œuvre du maniérisme, le Persée, le chef-d'œuvre de Cellini. Hommage au David de Michel-Ange, il est situé dans la loggia de la place de la Seigneurie. C'est le triomphe de Persée sur la Méduse. Il tranche la tête de la Méduse, c'est une œuvre en bronze, d'une hauteur de 3,20 m et un socle d'une hauteur de 3 m. Il rivalise donc avec le David de Michel-Ange, il augmente la taille avec un socle de marbre de 3 m de haut. L'iconographie, c'est Persée qui doit ramener la tête de la Gorgone. Le type est un peu androgyne, mais très grand aspect gracieux de la statue, léger contrapposto. Aspect du maniérisme, mais non, bien sûr, dans le contorsion du personnage, avec les formes serpentines, esthétique, allongement des corps. Le corps se déploie dans l'espace, position des bras, des jambes, développement aussi d'une forme d'érotisation du corps. Le glaive est levé, signifiant la force visible. Technique du détail, évocateur de l'orfèvre qui est Cellini, avec de longs doigts fins. La statue devait avoir 8 angles de vue, expression donc douce du visage, c'est un visage d'adolescent, mâle et bien confondu. Le socle en marbre très haut avait des statues en bronze de Minerve, Mercure, Jupiter et Danaé, et le bras de la Gorgone. Autre œuvre de Cellini, c'est le buste de Côme Ier de Médicis, 1,10 m, fait entre 1545 et 1547, qui est au Bargello à Florence, à la manière d'un empereur romain. Œuvre maniériste, le cou est étiré, l'expression du visage montre une intensité dramatique, creuse le regard, le visage est dur. Un dernier chef-d'œuvre, c'est le crucifix, qui est situé au monastère de l'Escurial, en Espagne, 1,85 m de haut, dans un seul bloc de marbre de Carrare, un marbre blanc. La croix est en marbre noir. Cette œuvre a été donnée à Philippe II d'Espagne par les Médicis. On voit la souffrance du visage, mais il y a aussi une grande douceur dans ce visage. Autre sculpteur, Bartolomeo Ammanati, 1511-1592, élève de Bandinelli, il est né à Florence. Il va partir et travailler à Venise, puis il ira à Padoue, appelé à Rome pour le pape Jules III, et il est rappelé à Florence par Côme Ier de Médicis. Une œuvre remarquable chez lui, la fontaine de Neptune, qui est à Florence, place de la Seigneurie, inspirée aussi de Michel-Ange, le Neptune est sur un char de coquillages, tenant un bâton de maréchal à la main gauche, 4 chevaux, le bassin est de marbre, forme octogonale, avec 4 personnages assis, ce sont les dieux et déesses marines, et puis vous avez des satyres et des faunes en bronze, mais qui sont réalisés par ses assistants. Donc Neptune est une allégorie qui ramène à Côme de Médicis, on voit donc l'influence de Michel-Ange, cette œuvre est inspirée du David. Forme des personnages allongés, mais des personnages plus fluides aussi, parce que c'est lié bien sûr à l'eau. Visage très marqué, des visages des satyres. Enfin, nous arrivons à des chefs-d'œuvre, Jean de Bologne ou Giam Bologna. 1529, enfin, un grand sculpteur de ce siècle du maniérisme, Jean de Bologne, dit ou Giam Bologna. 1529-1608, le plus grand sculpture de la deuxième partie du XVIe siècle. C'est un artiste nordique, flamand d'origine, extrêmement productif, donc il est né à Douai en 1529 et il décède à Florence en 1608. Il va partir à Rome en 1555, puis Florence, et rentrer ensuite au service des Médicis. Il deviendra le sculpteur attitré de François Ier de Médicis. Et en 65, on peut dire qu'il devient le grand sculpteur de Florence. Il sera caractérisé aussi par de petites sculptures qui vont être diffusées dans toute l'Europe, très inspirées bien sûr, je le répète, par Michel-Ange, mais contraste de courbes, rondes et angles aigus avec cette notion de spirale. L'œuvre, bien sûr, la fontaine de Neptune, faite entre 1560 et 1563, grande référence à Michel-Ange, elle est à Bologne, elle mesure 3,35 m de hauteur, elle est située sur la Piazza Maggiore. Le sujet, moins statique, déhanché, un peu lourd, le corps a des hanches un peu immenses, il part de l'influence de Michel-Ange, mais il va partir vers sa propre manière. Enfin, l'œuvre la plus célèbre, bien sûr, c'est le Mercure, que vous connaissez certainement, le Mercure, le messager des dieux, mais aussi le dieu des filous, des marchands, des médecins. Plusieurs versions, plusieurs copies, une est au Louvre, une autre au Bargello. La statue, c'est une grande arabesque avec une forme allongée, très filiforme, le corps est en avant, une certaine recherche de la vision, circularité de la figure. Il fera des bronzes de petite taille, comme Apollon ou Astronomie, qui est au Louvre, des formes élégantes, longilignes, serpentines. Et enfin, une œuvre remarquable, Florence, triomphant de Pise. Œuvre vers 1570, une hauteur de 2,60 m, marbre, Florence au Bargello. C'est le triomphe d'une jeune femme représentant Florence, l'avenir de Florence, sur un vieillard symbolisant Pise. Il enlève, dans cette statue, il va enlever plus de vide que Michel-Ange, mais des traces bien sûr de maniérisme, le travail des doigts, l'allongement des bras, l'allongement des jambes, mouvement expressif du visage, la bouche est ouverte. Enfin, son chef-d'œuvre, son plus grand chef-d'œuvre, c'est l'enlèvement d'une Sabine en 1580. C'est un défi technique, c'est l'apogée de la serpentine michel-angélesque. C'est un marbre, il est situé à la loggia des Lanzi à Florence. Il représente trois figures, la hauteur remarquable 4,10 m. Et ce thème permet de montrer sa suprématie technique. C'est une grande prouesse, spirale décor. Dans un seul bloc de marbre, il crée un enlèvement très élégant décor. Sabine est soulevée. Une main s'enfonce dans la cuisse de la Sabine. C'est un corps longiligne, spirale décor. Sabine se débat, expression de terreur. On voit l'influence de Michel-Ange, mais il va vers sa propre étude de l'Antiquité. Une dernière œuvre, la grotte de Buon-Talenti. C'est une grotte artificielle. C'est une notion, les grottes artificielles ont été très prisées à la Renaissance. Elle est située dans le jardin de Boboli à Florence. C'est le règne animal, végétal, minéral, commandé par François de Médicis. Cette Vénus donc sera réalisée avec une Vénus sortant du bain, Vénus ligne serpentine, un modèle doux, charnel. Une œuvre, dernière heure à citer, la fontaine de l'Apennin, plus de 10 mètres de haut, qui est située à Pratolino, région de Florence. La villa est Pratolino, villa de Médicis. Le maniérisme, la fontaine, qui est très à la mode à cette période, influence de Michel-Ange par les différentes positions, interaction avec la nature. Pour les maniéristes, la nature est très importante. Il va utiliser la lave pour représenter la nature. Le géant est traité avec une barbe, avec des stalactites à son extrémité. C'est un personnage mi-homme, mi-montagne. Cette montagne est une grotte avec plusieurs pièces. Alors, en conclusion, on dira que Jean de Bologne, on va conclure avec lui, Jean de Bologne marque l'apogée du maniérisme en sculpture. C'est un virtuose, élégance, composition dynamique, complexe, mais c'est un passeur. Il s'inspire de l'Antiquité, mais pas vers sa propre manière. Je vous remercie, à très bientôt et j'espère vous revoir dans une prochaine émission, dans une prochaine émission et comparer, donc regarder les œuvres sur votre ordinateur ou votre tablette. Merci, bonne journée.